Il est 7h à Paris, 6h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Et bonjour Martin Guez.
Et bonjour Julia Coquelrem, bonjour à toutes et à tous.
Nous serons à Kinshasa dès le début de ce journal après la prise de l'aéroport de Kavumu par le M23.
Le groupe armé appuyé militairement par le Rwanda qui progresse dans le sud Kivu et qui se rapproche de Bukavu. Certains de ses membres seraient même déjà dans la capitale provinciale. On fait le point en début d'édition avec Pauline Azidi.
Au Liban, réunion d'urgence ce matin après l'attaque subie par la FINUL.
La force de l'ONU prise pour cible à Beyrouth. Deux officiers ont été touchés, un véhicule incendié. Des partisans du Hezbollah bloquent les routes sur le chemin de l'aéroport. À Munich en Allemagne, J.D. Vance ne laisse pas indifférent le vice-président américain qui a séduit son boss Donald Trump, mais s'est attiré les foudres des dirigeants européens après sa leçon sur la démocratie et la liberté d'expression. Samedi 15 février, jour de fête nationale en Serbie et de manifestations géantes, mobilisation étudiante attendue dans le centre, contre-manifestation pro-pouvoir dans le nord. Enfin, on terminera au cinéma, à la Berlinale. Notre envoyée spéciale Elisabeth Le Quéré a assisté aux premières projections des films en compétition.
On démarre ce journal en République démocratique du Congo. Le M23 progresse au sud Kivu.
Et s'est emparé de l'aéroport de Kavumu, à une trentaine de kilomètres de la capitale provinciale Bukavu. Le M23 soutenu par le Rwanda, qui a d'ailleurs été aperçu dans la soirée dans les rues de Bukavu. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui est rentré en urgence du sommet de Munich. Il ne sera pas celui des chefs de l'État de l'UA à Addis Abeba. Félix Tshisekedi de retour à Kinshasa, la capitale congolaise. On retrouve notre correspondante Paulina Zidi. Paulina, le M23 qui a donc été vu hier soir à Bukavu.
Oui, c'est une information qui nous a été confirmée par une source gouvernementale dans la soirée, sans plus d'informations. En début de journée, ce vendredi, l'armée congolaise confirmait que le M23 et les militaires rwandais étaient signalés à l'aéroport de Kavumu. Il est situé à environ une trentaine de kilomètres de Bukavu. Kavumu, c'était une base militaire. C'est une base militaire où étaient stationnés des militaires congolais et burundais déployés dans le cadre d'un accord bilatéral. L'armée, de son côté, évoquait hier soir des combats entre Kavumu et Bukavu. Jusque tard dans la soirée, les autorités provinciale avait dans la journée convoqué un conseil de sécurité.
Une succession d'événements, Paulina, qui a poussé, on le disait, le président Félix Tshisekedi à écourter son séjour en Allemagne. Le voilà de retour à Kinshasa.
Oui, selon la présidence, il ne se rendra donc pas aujourd'hui au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, comme c'était initialement prévu. Et à Munich, le président est resté catégorique, pas de négociation avec l'AFC M23, qui n'est qu'un paravent que le Rwanda met en avant. Lors de cette même prise de parole, Félix Tshisekedi a pointé du doigt son prédécesseur, Joseph Kabila. Il l'accuse d'être impliqué dans l'opposition armée. Le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila, mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions, a déclaré le président congolais, qui a une nouvelle fois appelé la communauté internationale à agir. Ne rien faire, c'est déjà choisir, a-t-il lancé.
Merci Pauline Azidi, en direct de Kinshasa sur RFI.
Félix Tshisekedi, absent du sommet des chefs de l'État de l'Union africaine qui s'ouvre donc aujourd'hui à Addis Abeba.
Après la réunion animée du Conseil paix et sécurité hier, place aux dirigeants de l'Union africaine ce week-end, avec notamment ligne de mire l'élection du nouveau président de la commission, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui raccroche après deux mandats de 4 ans. Ils sont 3 à vouloir lui succéder, et le Kenyan Raila Odinga, 5 fois candidat malheureux à la présidence kenyane, qui apparaît comme le favori de l'élection.
Direction le Liban, sous le choc après une spectaculaire attaque contre un véhicule de la FINUL.
La force de l'ONU dans le pays demande une enquête immédiate et dénonce un possible crime de guerre après l'incendie d'un de ses véhicules, un convoi attaqué à Beyrouth. 2 officiers ont été blessés, attaque fermement condamnée par les autorités libanaises. Des dizaines de partisans du Hezbollah avaient bloqué pour le 2e soir de suite la route menant à l'aéroport international de la capitale libanaise. Bonjour Grégory Lesca.
Bonjour.
Alors réunion d'urgence ce matin à Beyrouth où les réactions sont nombreuses au lendemain de l'attaque.
Et oui, la FINUL tout d'abord qui condamne fermement cette attaque. Les attaques contre les casques bleus constituent, vous l'avez dit, des violations flagrantes du droit international et peuvent être assimilées à des crimes de guerre, assure la force de l'ONU. La force qui exige une enquête complète et immédiate de la part des autorités libanaises pour que tous les responsables soient traduits en justice. L'attaque s'est produite alors que les soldats arrivaient à l'aéroport dans le but de rentrer chez eux après leur mission. Ils ont été arrêtés par des manifestants qui bloquent certaines routes de Beyrouth. Depuis 2 jours, ces proches du Hezbollah protestent contre la décision du gouvernement d'interdire aux avions en provenance de Téhéran d'atterrir à Beyrouth. Selon Israël, les gardiens de la révolution iranien tenteraient d'envoyer des fonds aux partis chiites à bord de ces vols. L'armée libanaise est donc intervenue sur les lieux. Les militaires qui promettent d'agir avec fermeté pour empêcher toute atteinte à la paix civile et interpeller les fauteurs de troubles, mais on ne dispose d'aucune information sur leur identité. Les autorités libanaises condamnent cette attaque. Une réunion d'urgence du gouvernement est d'ailleurs convoquée pour ce ce matin.
Merci Grégory Lesca, en direct de studio sur RFI.
Sixième échange entre otages et prisonniers ce samedi dans le cadre de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas.
Trois otages israéliens d'un côté, 369 prisonniers palestiniens de l'autre. Après une semaine tendue qui a frôlé le point de rupture, les termes de l'accord de trêve seront bien respectés aujourd'hui. Trois hommes vont d'abord être libérés à Gaza. Trois binationaux, jusqu'ici 16 otages israéliens ont été libérés contre 765 prisonniers palestiniens. Et par ailleurs, Julien, le secrétaire d'État américain Marco Rubio est lui attendu dans la soirée en Israël. Il doit rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce dimanche.
Marco Rubio en Israël, J.D. Vance en Allemagne, ce qui n'est pas passé inaperçu.
Mais non, loin de là, le vice-président américain qui était de passage au sommet de Munich sur la sécurité. Il a notamment rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'assurant que les États-Unis voulaient une paix durable en Ukraine. L'Ukraine qui a peu de chances de s'en sortir sans soutien américain, a déclaré Volodymyr Zelensky à nos confrères de NBC. J.D. Vance, par ailleurs, qui a fait la leçon aux Européens sur la démocratie et la liberté d'expression devant une assemblée sidérée, comparant certaines zones de l'Europe à des régimes autoritaires. Un discours qui a beaucoup plu au président américain Donald Trump.
J'ai entendu son discours, il a parlé de liberté d'expression. Je pense que c'est vrai, en Europe, ils perdent leur merveilleux droit à la liberté d'expression. Je le vois bien. J'ai pensé que c'était un très bon discours, un discours brillant. L'Europe doit faire attention. Il a aussi parler d'immigration et l'Europe a un gros problème d'immigration. Regardez ce qui se passe avec la criminalité, regardez ce qui se passe à différents endroits en Europe. Je crois que ce discours a été bien reçu en fait. J'ai entendu de très bonnes réactions.
Voilà J.D. Vance qui reçoit un bon point de son président et de vives critiques du vieux continent.
La déclaration creusant encore un peu plus le fossé entre Washington et ses alliés européens, notamment l'Allemagne. Des propos tout simplement inacceptables pour le ministre de la Défense allemande Boris Pistorius.
Diese Demokratie.
La démocratie a été remise en question tout à l'heure par le vice-président américain pour toute l'Europe. Il parle d'annihilation de la démocratie. Et si je l'ai bien compris, il compare les conditions dans certaines parties de l'Europe à celles qui prévalent dans les régimes autoritaires. Mesdames et messieurs, ce n'est pas acceptable.
Boris Pistorius, ministre de la Défense allemande, J.D. Vance, qui a par ailleurs rencontré en Bavière Alice Weidel, patronne du parti d'extrême droite allemand AfD, à 8 jours des élections fédérales en Allemagne.
RFI, 7h07 à Paris et Belgrade. La mobilisation se poursuit en Serbie.
Manifestation géante aujourd'hui contre la corruption à Kragujevac, la quatrième ville du pays, dans le centre de la Serbie. Mobilisation qui dure depuis le mois de novembre et qui prend encore de l'ampleur en ce samedi 15 février, jour de la fête nationale en Serbie. Le président Aleksandar Vučić, pris pour cible par les manifestants, qui organise lui une contre-manifestation dans le nord de la Serbie. Correspondance de Laurent Rouy.
Des étudiants étaient partis dans la semaine en cortège de 8 villes de Serbie pour rejoindre à pied Kragujevac, où ils sont arrivés hier soir sous les acclamations des habitants. La ville accueille une manifestation géante toute la journée. Les étudiants, qui restent discrets sur leur stratégie, semblent organiser un tour de Serbie de la contestation. Dans toutes les petites communes où ils sont passés, les 8 cortèges ont été accueillis à bras ouverts, comme des libérateurs, selon une formule de plus en plus entendue dans la bouche des manifestants. La mobilisation contre la corruption atteint des niveaux jamais vus dans l'histoire des mouvements populaires en Serbie. Les protestataires réclament toujours justice après l'effondrement mortel de la gare de Novi Sad en novembre, qui avait fait 15 morts. Ils associent cet accident à la corruption généralisée qui caractérise le régime du président Aleksandar Vučić au pouvoir depuis 13 ans. De son côté, le président organise une contre-manifestation aujourd'hui dans le nord du pays. Il accuse toujours les protestataires de tenter d'organiser une révolution de couleur financée depuis l'étranger. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
On part dans les îles Cook à présent, Martin. Le petit paradis du Pacifique Sud se lance à la conquête des fonds marins.
Et oui, dans l'exploitation minière, pas vraiment chercheur d'or, le pays se lance en quête de nickel et de cobalt, des minéraux qui rapportent gros. Une activité destructrice pour l'environnement, ce qui participe au réchauffement climatique des îles Cook, qui se lancent tout de même dans l'exploration des grands fonds marins. Un projet commun avec la Chine et même envisagé, Simon Rosé.
On les trouve à plusieurs milliers de mètres de fond et ils attisent les convoitises. Les nodules polymétalliques non savants pour désigner des petites balles de métaux, du cuivre, du cobalt, du manganèse. Leur collecte a longtemps été inenvisageable techniquement, ce n'est plus le cas et leur rôle semble tout trouver dans la transition énergétique. Ils renferment des minéraux essentiels pour la construction de batteries, par exemple. Les îles Cook veulent leur part. La nation de 17 000 habitants annonce avoir entamé des discussions avec la Chine en ce sens et a délivré 3 permis exploratoires. Selon le premier ministre cookien, la manne d'argent permettra au pays de se protéger contre les effets du réchauffement climatique. La montée des eaux menace en effet à moyen terme l'existence même de ces petites îles du Pacifique. S'y préparer coûte cher et la solidarité internationale est insuffisante, d'où ce choix des îles Cook, mais également de Nauru. Choix contesté par leurs voisins car les conséquences environnementales et climatiques sont lourdes. Les engins utilisés pour ramasser les minéraux raclent le sol. Ils libèrent ainsi le carbone séquestré depuis des centaines de milliers d'années. D'autres États insulaires ont ainsi pris le chemin inverse, à l'image du Vanuatu, à l'initiative d'un combat international pour imposer un moratoire, voire interdire cette pratique.
Simon Rosé du service Planète Environnement de RFI.
On termine à Berlin et la 75e édition de la Berlinale.
Première grande fête du cinéma de la saison 2025. 19 films se battent pour l'Ours d'Or et pour succéder à Dahomey de Mati Diop. Deux premiers films sont entrés en compétition, Hot Milk et Dreams, qu'a vu pour nous Elisabeth Le Carré.
Deux stars internationales, deux femmes puissantes sur le tapis rouge et à l'écran. Dans Dreams, Jessica Chastain est une riche héritière qui fait venir aux États-Unis son amant, un jeune danseur mexicain. Une fois l'oiseau en cage, elle devient de plus en plus possessive, dominatrice et jalouse. Tandis que Dreams reconduit les rapports de domination nord-sud dans la sphère de l'intime et du sexe, Hot Milk transpose ses enjeux de pouvoir dans un trio féminin. Sophia. Sur la côte espagnole, en pleine canicule, Sophia, une jeune anglaise, s'ennuie et tente d'échapper à sa mère tyrannique. L'arrivée d'Ingrid, Vicky Krieps, une femme mystérieuse, lui fait entrevoir une porte de sortie. Ingrid est-elle une pure manipulatrice ou celle grâce à qui Sophia pourra enfin s'émanciper ? Au genre rebattu du récit d'apprentissage, Hot Milk apporte un imaginaire de contes et de légendes, à l'image de la méduse maléfique qui hante les nuits de la jeune fille. C'est la qualité principale de ce film qui parvient à unir dans un même tableau l'immuable et la fragilité de la jeunesse en devenir. Elisabeth Le Quéré, Berlin, RFI.
Et Julien La Berlinale, c'est à suivre jusqu'au 23 février.
Enfin, on ne pouvait pas se quitter sans un peu de Pierre Garnier.
J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher.
Voilà Pierre Garnier, un nom qui divise dans la matinale de RFI. Moi je suis un grand fan, il y allait pour, il y allait contre, mais l'ancien gagnant de la Starac, qui a fait l'unanimité hier soir aux Victoires de la Musique. Deux récompenses pour le gamin de Villedieu-les-Poêles, ça ne s'invente pas. Révélation masculine, chanson de l'année pour ce qu'on était, qui fait son entrée en première position dans la playlist de Julien Coquel-Rohem, à qui je laisse le micro pour la suite des RFI.
Et Villedieu-les-Poêles où on fabrique les cloches de Notre-Dame.
Tout à fait,
ça ne s'invente pas non plus.
On fait pas que des bières Garnier.
Merci beaucoup Martin Guèze, à tout à l'heure. Bientôt 6h13. En temps universel, dans quelques minutes, notre invité pour faire le point sur la situation dans la bande de Gaza, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui a frôlé la rupture cette semaine. On sera avec le professeur émérite Jean-Paul Chagnolo. Mais tout de suite, les sports. Bon, avec vous Victor Missistrano, j'allais vous redire bonjour. Et le football, le choc du week-end a lieu en Allemagne entre les deux meilleures équipes du championnat.
Rebonjour Julien, en tête, le Bayern Munich se déplace chez son dauphin, le Bayer Leverkusen. Tenant du trophée, les Munichois peuvent déjà s'offrir une belle option sur le titre et prendre 11 points d'avance en cas de victoire. Mais à l'aller, les deux équipes avaient fait match nul fin septembre et début décembre en Coupe d'Allemagne, c'est Leverkusen qui s'était qualifié. Cette confrontation est en train de devenir un classique du football allemand, constate l'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany.
Nous avons remarqué que lors des deux premiers matchs contre Leverkusen cette saison, beaucoup de gens s'y sont vraiment intéressés. Il ne faut pas oublier que Leverkusen n'a perdu qu'une seule fois au cours des 18 derniers mois. En Angleterre, il y a toujours eu ce genre de duel, Arsenal United, City United et aujourd'hui City Liverpool. Quand vous regardez la Bundesliga aujourd'hui, je ne serais pas surpris que Bayern s'inscrive dans ce genre de rivalité, car cette équipe actuelle de Leverkusen semble en mesure de toujours obtenir plus de 80 points sur une saison et même peut-être 90 points.
Le nouveau classiqueur Bayern Munich, coup d'envoi 17h30 temps universel. Vincent Compagnie évoque l'Angleterre où il a longtemps évolué. Justement, hier, la 25e journée de Première Ligue s'est ouverte par la lourde défaite de Chelsea, surclassée par Brighton 3-0. Doublé du jeune Gambien Yankuba Minte. Quatrième, les Blues pourraient se faire éjecter du Big Four par Manchester City qui reçoit Newcastle à 15h30 temps universel. À 12h30 TU, Arsenal en déplacement à Leicester va tenter de revenir à 4 points du leader Liverpool.
En France, la 22e journée a débuté hier soir.
Et Brest et Auxerre se sont quittés dos à dos, 2-2. Petite contre-performance à domicile des Brestois, quasiment éliminés de Ligue des Champions. Ils iront mercredi au Parc des Prince avec un retard de 3-1 en barrage retour. Tout va bien pour leur adversaire, le PSG. Une qualification en 8e de finale de C1 se profile donc. Et 10 points d'avance pour eux au classement, pour des Parisiens qui jouent ce soir à Toulouse. Leur entraîneur Luis Enrique espère continuer donc sur cette dynamique très positive.
Et c'est clair que nous avons un très bon moment, mais en même temps, chaque match et chaque compétition sont importants. On essaye de prendre du plaisir en jouant au football. L'année dernière contre Toulouse, on n'a gagné aucun des deux matchs que du championnat. Et ça signifie que ce sera, comme d'habitude, très difficile. Et j'espère de voir, comme toujours, notre équipe à un haut niveau.
Toulouse, Paris Saint-Germain, le coup d'envoi c'est à 20h05 temps universel. À 16h, l'OM Dauphin du PSG reçoit Saint-Etienne. Et à 19h, TU Monaco 3e reçoit Nantes.
On termine par des nouvelles de l'une des icônes de l'athlétisme mondial.
Le Suédois Armand Duplantis qui a fait sa rentrée hier soir à Berlin. Le champion olympique du saut à la perche s'est imposé grâce à un saut à 6m10. Il s'est ensuite attaqué à son propre record du monde, une tentative à 6m27 sans succès.
Toujours plus haut. Merci Victor Missistrano.
RFI Matin.
Dans Menace sur l'information, cette semaine, un événement en marge du sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est déroulé à Paris lundi et mardi, à quelques pas du Grand Palais où discutaient les dirigeants. Le Théâtre de la Concorde accueillait une rencontre du SNJ, le syndicat national des journalistes, qui organisait des débats autour des questions éthiques et déontologiques que pose l'IA lorsqu'elle est utilisée en journalisme. Une pratique de plus en plus courante, Oriane Gendreau.
Dans le journal sportif L'Équipe, cela fait bien longtemps que l'IA n'est plus sur le banc. Cet été, elle générait seule des podcasts sur les Jeux Olympiques à partir des articles du quotidien. Un grave problème déontologique pour Francis Magua, un des rédacteurs du journal.
Ça a été vendu comme ça ne coûte rien et il n'y a pas de travail supplémentaire au niveau de la direction. Donc notre réaction de se poser des questions sur qui est responsable et qu'est-ce qu'on fait s'il y a une erreur. L'IA, c'est une nouvelle forme de croyance qui permet peut-être d'avoir une rentabilité économique. Mais la conséquence, c'est qu'il n'y aura plus de journalistes.
Et les premiers journalistes touchés risquent d'être les secrétaires de rédaction, c'est-à-dire ceux qui relisent et corrigent les articles. Pourtant, bien loin de décharger les journalistes de ces tâches supposées rébarbatives et chronophages, les erreurs trop fréquentes de l'intelligence artificielle les poussent à être deux fois plus vigilants. C'est ce qu'explique Éric Barbier, journaliste à l'Est Républicain et co-organisateur du Contre-Sommet.
Les secrétaires de rédaction aujourd'hui sont directement ciblés.
Il y a sans arrêt un contrôle humain, une relecture humaine qui est indispensable parce que ces IA commettent tellement d'erreurs qu'il faut repasser derrière elles en permanence. Donc en fait, il n'y a aucun gain de temps. On ne peut pas demander un journaliste, comme on l'entend aujourd'hui beaucoup, d'ailleurs beaucoup dans la bouche même du président de la République, il faut que les journalistes fassent leur métier, vérifient l'information et tout ça, et leur demander de l'IA générative qui n'est pas fiable. C'est complètement paradoxal comme raisonnement. Donc revenons à l'essentiel, revenons aux fondamentaux du journalisme, c'est-à-dire donnons-nous le temps de faire notre métier, un métier qui respecte des règles éthiques, déontologiques, d'information, de collecte d'informations sourcées, vérifiées.
Et pourtant, l'utilisation de l'IA se répand dans toutes les sphères journalistiques. Le journal Le Monde et l'agence France Presse ont déjà passé des contrats avec deux logiciels d'intelligence artificielle générative. Face à cette arrivée massive de l'IA dans les rédactions, Éric Barbier propose des garde-fous.
Ben, c'est qu'on se mette autour d'une table déjà pour en discuter, comme le préconise le CDJ, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui fixe une échelle de risque à l'utilisation de ces IA, avec un risque faible, un risque modéré, un risque à proscrire, qu'on se mette autour d'une table justement pour, en appliquant cette échelle de risque, pour définir quelles IA on peut potentiellement utiliser, c'est-à-dire celles qui n'ont aucun risque sur nos métiers.
Des chartes pour réguler l'IA commencent à se mettre en place dans les médias, signe que les rédactions prennent de plus en plus conscience des risques que pose un tel outil.
Oriane Gendreau pour Menace sur l'information. 7h20 à Paris, 3 otages israéliens, 369 prisonniers palestiniens. Un sixième échange aujourd'hui entre Israël et le Hamas à 2 semaines de la fin de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Un accord qui a frôlé le point de rupture cette semaine. Toujours dans le sillage des propos incendiaires de Donald Trump, sa volonté de déplacer les Palestiniens de Gaza, le Hamas a menacé de retarder la libération des otages prévus ce samedi, accusant Israël de ne pas respecter l'accord de trêve. Israël masse de nouveau des troupes aux frontières de l'enclave et se dit prête à tous les scénarios. Le cessez-le-feu peut-il tenir? La deuxième phase a-t-elle encore une chance de voir le jour alors que les négociations doivent reprendre? Notre invité ce matin pour y voir plus clair. Bonjour Jean-Paul Chagnolot.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études sur la Méditerranée Moyen-Orient. On voit donc ce sixième échange aujourd'hui qui devrait se dérouler finalement comme prévu après les menaces des deux côtés cette semaine. Comment interprétez-vous cet apparent, je dis bien apparent, retour à la normale dans le déroulement de l'accord? La tension redescend d'un cran ou c'est trop tôt pour le dire?
Je crois que la tension ne va jamais retomber parce que nous sommes au contraire dans une situation extrêmement, extrêmement difficile. Alors, que ces échanges puissent continuer, c'est une possibilité. Autrement dit, est-ce que le cessez-le-feu va durer? C'est possible. Rien n'est certain. Vous l'avez vous-même évoqué. Mais surtout, c'est l'horizon qui est complètement bouché. Et donc, on est là dans une phase qui néglige la suite, c'est-à-dire que la suite, ça sera l'éventuelle deuxième phase. Et cette deuxième phase, elle pose des questions majeures. Donc en fait, on avance, mais on avance d'un brouillard total. Et le fait que désormais, à Washington, il y ait un président qui méprise absolument le droit international et qui se permet des propositions qui datent du 19e siècle, eh bien évidemment, ça chamboule tout. Et évidemment aussi, on peut en reparler, ça donne très largement une carte blanche au gouvernement Netanyahou. Donc on peut espérer peut-être que le cessez-le-feu tienne et par conséquent que le processus d'échange entre les otages et les prisonniers palestiniens puisse continuer, mais ce n'est évidemment pas sûr. Et ensuite, on va buter sur des choses fondamentales.
On va continuer de parler de l'avenir, mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur aujourd'hui. Après les polémiques sur les images des précédentes libérations, les mises en scène du Hamas, l'état physique des otages libérés la semaine dernière, qui a beaucoup choqué, à quoi faudra-t-il prêter attention aujourd'hui?
Bah écoutez, moi je crois qu'il faut prêter attention à tout, c'est-à-dire évidemment l'état dans lequel les otages vont se trouver, la façon dont le Hamas va le mettre en scène, parce qu'évidemment pour le Hamas, ça, c'est une preuve à ses yeux en tout cas qu'il reste maître du territoire, c'est assez essentiel ça. Et puis aussi, il faut prêter attention à ce que sont les prisonniers palestiniens, les 369 prisonniers palestiniens, dont la plus grande partie, ce sont des personnes qui ont été arrêtées depuis le 7 octobre. Et donc là aussi, il y a toute une série de problèmes qu'on a entendu c'est un peu oublié. Donc je crois qu'il faut regarder ça de très près, mais d'un point de vue politique ou géopolitique, il est évident que ça signifie aussi que Netanyahou n'a pas réussi à éradiquer le Hamas. D'ailleurs, tous les observateurs ont estimé que c'était impossible. Évidemment, il est très très affaibli sur le plan militaire, la question ne se pose même plus, mais sur le plan politique, il est en capacité de faire tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc, ça, évidemment, préempte la suite dont je disais tout à l'heure qu'elle était absolument, c'est un saut dans l'inconnu, à tous égards.
Donald Trump a de nouveau perturbé, par ailleurs, le déroulement de l'accord cette semaine, en continuant de faire pression pour déplacer les Palestiniens de Gaza, bien sûr, mais aussi en appelant à la libération de tous les otages d'ici ce samedi, sans quoi, selon lui, il faudrait annuler l'accord et laisser l'enfer se déchaîner. La libération de tous les otages n'est pas ce que prévoit l'accord de cessez-le-feu. Comment interprétez-vous ces propos?
Je crois qu'on est dans cette logique de Trump qui consiste à ignorer toute forme de droit international. Il l'ignore à deux niveaux. Il l'ignore d'abord par rapport aux accords qui ont été tenus, le plan qui est un plan Biden, il faut quand même le rappeler, et qui se prolongeait là aussi, il faut le rappeler, par une résolution du Conseil de sécurité, c'était le 10 juin 2024, qui, au fond, donnait ces différentes étapes, ce qui devrait conduire à une deuxième phase qu'on évoquait tout à l'heure, puis une troisième, très hypothétique, évidemment, qui serait de l'ordre du politique. Donc, c'est une manière de fracasser ou de fragiliser, en tout cas, un accord qui, tout de même, est assez important, parce qu'il y va par étapes. Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est aussi un mépris complet des principes fondamentaux du droit international. Quand on évoque l'idée d'un contrôle de Gaza par les États-Unis et évidemment ensuite cette idée de nettoyage ethnique, c'est des formules qui remontent au 19e siècle ou au début du 20e et qui a été dans le droit international de l'époque, mais qui a été évidemment totalement écartée par le système international mis en place à partir de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment, sans parler de la dimension éthique, morale, qui est évidemment, mais ça, d'un point de vue strictement juridique, c'est tout à fait contraire, par exemple, à la 4e Convention de Genève, qui interdit tout transfert forcé. Enfin bref, il faut revenir à 1923 pour voir un échange de population entre Grecs et Turcs. C'était toléré à l'époque, nous sommes un siècle plus tard, et Trump continue de parler de ça. Donc évidemment, mais malheureusement, ça signifie aussi qu'avec une telle proposition inacceptable, d'autres choses qui sont tout aussi inacceptables, mais moins graves, pourraient être tout à fait légitimées. Je pense évidemment à ce qui peut se passer en Cisjordanie notamment, dont on parle très peu.
Et dont l'annexion est de plus en plus évoquée. Exactement, Donald Trump doit par ailleurs s'exprimer là-dessus dans quelques semaines. Au moment de l'accord sur le cessez-le-feu obtenu avec l'intervention de Trump, justement, juste avant son arrivée au pouvoir, l'une des grilles de lecture, c'était celle du coup de pression du président républicain, celle d'un deal entre lui et Netanyahou, un accord de cessez-le-feu en échange d'un soutien américain à la reprise de la guerre à Gaza à la fin de la première phase. Ce scénario vous semble-t-il se confirmer? Est-ce que la deuxième phase de l'accord a encore des vraies chances d'être conclue aujourd'hui?
Moi, je dirais qu'il y a des vrais risques pour qu'il ne le soit pas. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans ce rapport de force, tout est possible. Vous l'avez vous-même évoqué, c'est-à-dire que d'un côté, Trump donne carte blanche, parce qu'en aller à évoquer de telles hypothèses de nettoyage ethnique, ça veut dire que tout est possible, au fond, sur le plan militaire. Et d'ailleurs, Netanyahou lui-même a dit que il pourrait se charger du travail, entre guillemets, pour le mot travail. Donc, il est clair que le gouvernement Netanyahou a, comme on le savait depuis très longtemps, aura les coups des franches à Gaza, donc pour remettre en question la suite du processus, étant entendu qu'il est hors de question pour Netanyahou que les Palestiniens, pas simplement le Hamas, mais que les Palestiniens contrôlent le territoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire dès lors qu'il n'y a pas de plan alternatif? Et puis d'autre part, il faut être attentif à ce qui se passe en Cisjordanie. Il n'y a jamais eu autant de violence, jamais eu autant de répression et surtout de colonisation, avec l'idée que dans les prochaines semaines, on parle d'une annexion, en tout cas d'une partie du territoire. Donc c'est ça les objectifs. Et par conséquent, les phases du processus de cessez-le-feu ont peu de chances d'être réalisées dans un tel contexte.
Vous disiez cette deuxième phase, par ailleurs, poserait des questions majeures. Lesquelles?
Il y en a deux. La première, c'est comment imaginer que Netanyahou accepte de retirer complètement les troupes israéliennes de Gaza et donc de ne plus en avoir un contrôle direct, même si évidemment il peut avoir un contrôle en s'installant tout autour de la bande de Gaza. Et puis le deuxième point, c'est qui va contrôler Gaza. Et il y a des projets qui viennent de différentes instances, qui consistent à dire, ça peut être les Nations Unies, ça peut être évidemment les Palestiniens en liaison avec les Nations Unies, mais de tout cela, Netanyahou ne veut pas. Donc ça signifie, si on ne veut pas ce type de plan, ça veut dire qu'il veut garder le contrôle, d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, ça ne peut pas faire fonctionner la deuxième phase, et moins encore la troisième, dont on ne parle même pas, puisqu'il s'agirait d'aller vers un processus politique de fond, avec une perspective de deux États. Donc vous voyez, on est à des années-lumière de cette troisième phase. Et la deuxième elle-même est dans très handicapé dans le contexte actuel.
À des années-lumière, alors que les négociations, selon le Hamas, pourraient reprendre en début de semaine prochaine. Merci Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée, Moyen-Orient, l'IREMO, pour faire plus court. Je cite aussi deux de vos ouvrages co-écrits avec Pierre Blanc, les livres Atlas du Moyen-Orient et Atlas des Palestiniens aux éditions Autrement. Bonne journée. Et bientôt 6h30 en temps universel. L'info revient dans une minute sur RFI. À tout de suite.
Géopolitique. Les matières premières jouent toujours un rôle clé dans les dynamiques et relations entre États. Un nouveau siècle minier s'ouvre et face aux besoins colossaux de la transition énergétique et numérique, la course aux métaux est lancée. Alors que la Chine domine le marché mondial et que l'Afrique détient un tiers des réserves, où trouver les ressources pour notre avenir? Éléments de réponse avec les invités de Marie-France Chatin dans Géopolitique, tout à l'heure à 18h40 TU.
RFI.
Témoin d'actu, le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
Pas de mariage, pas d'enfant, pas de relation amoureuse ni sexuelle avec un homme. C'est le principe du mouvement féministe radical sud-coréen 4B. Pourquoi est-il né en Corée du Sud? Peut-il s'étendre ailleurs? Nous en discutons avec Nicolas Roca, ancien correspondant de RFI à Séoul.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tout à l'heure à 19h40 TU sur RFI et en podcast sur RFI.fr.